RCF.
Bienvenue à toutes et à tous en direct ou en podcast dans ce troisième numéro de l'année 2023 et c'est au compteur le 12e de la 7e saison de Côté Ouvert. Et vous savez que Côté Ouvert, c'est votre rendez-vous consacré à l'actualité du rugby à 15 sur RCF Pays d'Aude avec la complicité de RCF Pays Tarnais et également diffusé sur RCF Occitanie grâce à la magie du DAB+. Un rendez-vous qui vous est toujours proposé en partenariat avec l'excellent site Vibré Rugby. Aujourd'hui, dans notre multiplex entre le Tarn, l'Aude, le Piémont des Alpes. Une fois de plus, ils ont répondu à l'appel puisque, autre votre serviteur, j'ai le plaisir d'accueillir notre vénérable préféré que toute la France nous envie, monsieur Christian Mosna. Bonjour Christian.
Bonjour à tout le monde.
De l'autre côté, loin là-bas, au pied des Alpes, encore dans le froid, c'est Fred Protin qui l'a... Protin, j'y arriverai décidément pas. Fred Protin qui est fidèle au rendez-vous. Salut Fred.
Bonjour Patrick et bonjour à tous et à toutes.
L'indispensable Renaud Sorel est bien sûr sur les starting blocks. Salut Renaud.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis, grand honneur, monsieur Christian Guittard revient dans l'émission Côté Ouvert après quelques petites intermittences. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Et puis vous le savez, cette émission a besoin de metteur en onde et c'est GG au doigt de fée, monsieur Jérôme Bozon, qui sera aux manettes aujourd'hui.
Bonjour Patrick et bonjour tout le monde.
Allez, un petit menu aujourd'hui, justement sur mesure pour vous, chers auditeurs. Tout d'abord, deux petits coups d'œil à l'actu rugby, parce qu'il y a des dossiers intéressants qu'on ne pouvait pas éviter dans Côté Ouvert. Et puis surtout, nous ouvrirons ensuite un grand dossier, celui du tournoi des Six Nations 2023. Allez, l'actu sportive nous amène d'abord en Pro D2, puisque ce week-end, et plus précisément du côté d'Oyonnax, ben, il y a eu un coup de théâtre, messieurs, en Pro D2. L'équipe d'Oyonnax, leader du Pro D2, celle qui roule, on va dire, clairement sur cette seconde division professionnelle, eh bien, est tombée à domicile après une série quand même de 12 succès consécutifs dans ce championnat. Donc messieurs, rapide petite analyse pour l'anecdote et puis pour faire un petit clin d'œil à nos copains Montois, puis on pense à Joël notamment qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu comme enseignement ? Christian, est-ce que pour toi cette victoire 26-25 sur le fil de Mont-de-Marsan à Oyo, c'est juste un simple aléa pour les Oyomènes ou ça va être peut-être quelque chose de plus grave, un coup d'arrêt ? Comment tu l'analyses toi ?
Une piqûre de rappel, je crois que c'est comme ça que l'ont analysé les joueurs d'Oyo, c'est ce qu'ils ont présenté, donc c'est vraiment un simple aléa. Tu parlais des chiffres, hein, moi j'ai un petit peu regardé ça, 8 BO, 2 bonus défensifs, 14 victoires, c'est la première défaite à la maison, cette défaite contre Mont-de-Marsan. Quand on regarde aussi le classement, même dans les déplacements, on voit c'est Rouen, le prochain Montauban, Carcassonne. Bon, ils vont recevoir Biarritz et Colomiers. Enfin bref, tout ça montre qu'ils ont quand même un calendrier qui est à leur portée. L'équipe reste forte et je vois mal comment cette piqûre de rappel ne fera pas son effet. Bon, ceux qui ont vu ou écouté le match ont vu que peut-être Oyonnax, c'est peut-être pas vu trop beau, mais n'a pas tenté tout ce qu'ils auraient pu tenter, notamment en termes de pénalité. Ils l'ont fait sur la deuxième mi-temps quand ils ont vu que ces Montois étaient plus accrocheurs que prévu. Beaucoup de gifs, je crois, beaucoup ouais. De joueurs tout jeunes dans cette formation de Mont-de-Marsan. Donc voilà, ils les ont probablement un petit peu pris de haut inconsciemment. Et je crois que ça leur servira de leçon. On a du mal à imaginer que ça soit autre chose.
Ouais, Renaud, de notre côté, ben, c'est peut-être tout simplement qu'il faut se rappeler que l'année dernière, Mont-de-Marsan faisait une super saison de Pro D2. Il y a eu un démarrage un peu compliqué parce qu'il va falloir digérer cette finale perdue. Mais il faut encore compter avec les Landais, puis avec cette envie de jouer, y compris avec des petits jeunes. Hein.
Voilà, sur ce match-là, j'ai envie de dire, les coiffeurs vous saluent bien, hein, ouais. Parce que clair, le staff, ça n'était pas caché, il avait fait tourner, et grand bien le prix, comme disait Christian à juste titre, ben, Oyo s'est dit, des petits jeunes, ça va être facile, on prend pas les points, et puis, ben, Mont-de-Marsan, accessoirement, c'est la bête noire d'Oyo, hein, parce que je pense que sur la saison, c'est la seule équipe qui sur les deux matchs aller-retour, va les avoir battus, hein, puisque Oyo avait chuté 26-15 à Mont-de-Marsan mi-septembre. Donc, il faudra compter sur eux. Ils sont là, toujours présents, toujours dans le haut. Là, je pense qu'ils vont bien s'accrocher à cette deuxième place synonyme de demi-finale, de qualif direct pour les demi-finales. Ils ont Britannomis à plus 18. Alors, on va oublier celui à plus 28 d'Oyo, hein, parce que c'est stratosphérique. Ouais. Mais Agen, qui est troisième, peine à domicile, hein, ils sont qu'à plus 13 au Brita Bonus. Donc, ils sont toujours là. Il y a un savoir-faire hollandais. Quant à dans ce championnat de Pro D2, si on veut savoir, si un entraîneur veut faire un stage pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en Pro D2, tu pars en stage pendant un an à Mont-de-Marsan, tu vois ce qui s'y passe, tu reviens et tout ira bien.
Alors justement, tiens, pour terminer cette petite page Mont-de-Marsan, moi je trouve qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Vous avez parlé des coiffeurs, on a parlé des gifs, effectivement, cette équipe. Christian et Fred, les deux qui restent à intervenir là, c'est quand même une bonne nouvelle, j'allais dire, pour la formation française en général. Et on sait en plus que beaucoup de clubs de top 14 n'hésitent pas maintenant à aller faire leur marché chez les jeunes français de Pro D2. Et à Mont-de-Marsan, il y a un vrai savoir-faire. Fred ou Christian, vas-y.
Oui, effectivement, hein, puisqu'il Mont-de-Marsan a aligné 23 gifs sur la feuille de match et belle 13 perf, joueurs, ouais, c'est extraordinaire, hein, et 13 joueurs formés au club sur les 23. Hein, donc, c'est pas des gifs aussi piqués à droite à gauche. C'est issu de la formation montoise qui est, à mon humble avis, peut-être la meilleure de Pro D2, voire top 14 réunis, parce qu'ils sortent des talents. C'est une machine à sortir des talents.
Fred, tu confirmes, tu corrobores ?
Oui, non, mais c'est incontestable. Et moi, ce que j'ai bien aimé, vous l'avez remarqué, hein, c'est le dernier essai qui
magnifique,
est fabuleux, qui montre toute la formation. Là. Le jeune qui part, hop, rapidement, joue à la main, les trois qui suivent derrière sont dans le bon timing, passage de bras, donne le ballon, rapidement, ça va à 100 à l'heure. L'arrière intercalé qui prend l'intervalle, qui va à Dame, c'est remarquable, c'est joué en 10 secondes, hein, cette affaire-là. Mmh. Et donc, on voit toute la maîtrise et le sens du jeu du rugby. Donc,
et le culot.
Et le culot, oui, mais le culot, parce qu'il y a la jeunesse, souvent, c'est un peu ça, c'est un peu sa force. Des fois, ils font un peu n'importe quoi, mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont bien cadrés. Ouais. La maîtrise, elle est totale dans l'état d'esprit, dans la philosophie du rugby, c'est magnifique.
Ouais, et juste pour conclure là-dessus, vous parliez de cette jeune génération et tout un symbole puisque c'est Johan Laos Aspiazou, un peu le papa maintenant de ces jeunes qui vient conclure. Donc c'est peut-être ce passage de ballon, c'est aussi un passage de témoin au sein de cette très belle équipe. Et puis moi, je vais passer un témoin à Jérôme pour la deuxième actu. Ouais, la seconde actu qu'on ne pouvait pas passer sous silence aujourd'hui, ben c'est tout simplement les frasques encore qui agitent et qui marquent la Fédération française de rugby avec la démission, pardon, cette fois-ci, enfin de Bernard Laporte. Alors quand je dis enfin, c'est dans le timing, je ne me prononce pas sur mes opinions propres sur le sujet, puisque Bernard Laporte, vendredi matin, a annoncé sa démission à la tête de la Fédération française de rugby. Alors un petit rappel des faits, vous rappelez, on avait fait une émission spéciale là-dessus. En décembre, il a été condamné à 75 000 euros d'amende et 2 ans de prison avec sursis dans ce qu'il convient d'appeler maintenant l'affaire Laporte-Altrade. Il avait choisi ensuite de se mettre en retrait en utilisant un bouclier, je vais appeler ça un bouclier, Patrick Buisson, comme président délégué de la FFR. Entre-temps, il a fallu quand même consulter les clubs de rugby français, près de, je crois, 1500 clubs, si mes souvenirs sont bons, sur le territoire, une sorte de référendum. Et au final, ce référendum, il s'est télescopé la même semaine avec une nouvelle aventure, alors qui n'a rien à voir avec les affaires liées à la Fédération française de rugby en propre, mais Bernard Laporte s'est de nouveau retrouvé en garde à vue mardi dernier pour blanchiment supposé de fraude fiscale, dont il est, je le précise, ressorti libre. Donc jeudi, à l'issue du vote des clubs français, bien le président délégué, qui était un petit peu, on va le dire, l'homme de Bernard Laporte, a été récusé par les clubs, 51% de non contre presque 49% de oui, et ce désaveu a conduit donc Bernard Laporte à démissionner. On pensait que cela n'allait conduire la FFR à de nouvelles élections, que nenni, puisqu'on a appris que les derniers membres, notamment proches de Bernard Laporte, qui restaient à la tête de ce qu'on appelle le comité directeur ou le bureau fédéral de la FFR, il en reste 14 sur les 26 d'origine, parce qu'entre-temps, par opposition, les deux représentants de la LNR ont démissionné. Les 9 membres de la liste d'opposition à Bernard Laporte ont aussi démissionné. Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, au final, cette démission symbolique de Bernard Laporte, elle n'est pas véritablement annihilée, parce qu'on a le maintien technicien du bureau fédéral qui bloque toute possibilité d'évolution. Ça veut dire en gros que encore pour les prochains mois, voire les prochaines années, ça sera un petit peu les hommes de Bernard Laporte à la tête de la Fédération française. Pas sûr que ça plaise beaucoup à la ministre des Sports qui avait clairement pris position dans ce sujet. Simplement, moi, pour terminer ce petit coup de gueule, entre guillemets, c'est que peut-être pour la sérénité du rugby français à une semaine du début du tournoi et à 8 mois du début de la Coupe du Monde, ça aurait sûrement mérité une autre issue, peut-être même plus de dignité dans les comportements de chacun. Ah, on aime entendre sur Côté Ouvert résonner la Marseillaise. Et pour tout vous révéler, chers auditeurs, Christian Mosna a revêtu la tunique des Bleus qui lui...
tournoi de 2000.
Oui, mais qui te voit parfaitement bien. Ça vaut que tu n'as pas pris un kilo depuis 22 ans, 23 ans maintenant. Tu es dans une forme éblouissante. Messieurs, ces tournois à destination avec un 15 de France titulaire, j'allais dire, du titre, puisque c'est les Français qui ont remporté et le tournoi et le Chelem la saison passée. 13 victoires de rang pour le 15 de France, invaincu en 2022. Un programme que je ne considère pas franchement favorable, mais de toute façon, il faut jouer toutes les équipes, puisque dimanche, on fait un petit tour de chauffe en Italie. Le week-end suivant, le samedi 11, on sera en Irlande. Le samedi 25, la France reçoit l'Écosse. Et au mois de mars, à savoir le 11 mars, un certain Angleterre-France à 17h45. Et puis, pour conclure, cherry on the cake, comme on dit en anglais, le samedi 18, les Français recevront le pays de Galles. Et bon, c'est l'occasion de pouvoir un petit peu parler de ce tournoi et faire un focus sur le 15 de France. Messieurs, vous avez été très studieux, je le sais, aujourd'hui. Vous avez travaillé les listes, les joueurs, etc. Alors, j'aimerais qu'on commence justement, tiens, par la première liste qui a été communiquée il y a, je crois, à peu près 15 jours déjà, qui a déjà pas mal évolué, mais qu'on passe un petit temps à réfléchir sur la liste et puis peut-être les surprises qu'elle contient. On avait une liste au départ de 42 noms. Je ne pense pas que nos auditeurs aient besoin d'écouter l'énumération complète de cette liste, que ça pourrait, Renaud, être fastidieux. Je te vois dodeliner de la tête.
Ouais, je pense qu'on perd tout le monde.
Là, on perd tout le monde. Justement, tiens, puisqu'on parle de perdre, ben, cette liste, il y a quand même des gens peut-être qui manquent, et je pense notamment aux blessés, soit parce qu'ils sont blessés avant la communication de la liste, ils l'étaient déjà, soit qu'ils se sont blessés entre-temps. Donc, de votre côté, est-ce qu'il y a des gens qui vont nous manquer ou grâce à l'actuel management, Galtier et sa team élargie, on se rend compte que pratiquement personne n'est justement irremplaçable dans ce 15 de France. Et Monsieur Sorel, puisque vous voulez ramener votre fraise, allons-y.
Oui, ben, les blessés, Jonathan Danti, ligament du genou, Jean-Baptiste Gros, rééducation après, puisqu'il s'était fracturé le bras, le centre Arthur Vincent qui s'est blessé au genou, Woki blessé au scaphoïde, et lundi en fin de journée, on a appris que Yacouba Camara qui était sorti à la 56e lors du match Toulouse-Montpellier s'est rompu les ligaments croisés, donc il va manquer un moment. Alors oui, effectivement, à une époque, quand on perdait un joueur, on se disait « ça y est, c'est foutu ». Là, tu perds un joueur, t'en sors trois de nouveau, t'oublies celui que tu considérais comme titulaire indiscutable et indiscuté, et voilà, donc je serais tenté de dire que c'est la deuxième option que tu as soulevée, c'est qu'on a quand même un gros réservoir, on a la chance à pas mal de postes d'avoir un gros réservoir en équipe de France. Donc, avec le management de Sir Galtier, personne n'est irremplaçable, même si il y a quand même certains postes clés où on peut d'ores et déjà, sans prendre aucun risque, donner le nom des titulaires indiscutables. Je pense à la charnière, je pense à la seconde ligne, au troisième ligne centre, etc., etc.
Fred, personne n'est irremplaçable, c'est pour ça qu'on peut être serein malgré les blessés.
Oui, non, mais bon, on pourrait remplacer Dupont, c'est ça que ce serait bon. C'est toujours remplacer, hein. Il y en a d'autres hein, derrière. Bah, mais on, sait jamais, on se dit, mais une équipe de France sans Dupont et Ntamack, même si moi j'ai un petit ticket pour Jalibert, mais ça c'est personnel. Mais comme l'a dit Renaud, et puis c'est le système Galtier. Il a créé un groupe de 42 joueurs, personne n'est irremplaçable, donc il crée une certaine émulation, et puis les 42 sur la liste, ce sont des très bons joueurs. Là, il n'y a pas photo, quand on les voit évoluer dans le top 14 aujourd'hui, Il y a des jeunes qui pointent leur bout du nez. Bon, je pense aux jeunes de Bordeaux là, qui viennent de Grenoble, bien barrés.
C'est bizarre, ils viennent de Grenoble.
Et c'est oui, non, mais, ah, voilà, coïncidence. Coïncidence. On oublie de dire que la formation Grenoble est performante. On a parlé de la formation montoise, mais quand même. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un bon réservoir. Galtier fait appel à ces jeunes, les met un petit peu dans le turnover. Ils font leur stage, ils montrent un petit peu leur présence, et c'est une très bonne chose que personne ne soit irremplaçable, quoi, finalement.
Christian, ce management, alors Christian Guittard, pardon, Monsieur Tahiti Bob, justement, ce management favorisait effectivement cette émulation et cette. À une époque, tu te rappelles, on avait des débats avant même tes départs vers les antipodes, quand tu étais les premières saisons de côté ouvert, on revenait sur l'idée qu'on n'avait pas les hommes. Et là, franchement, l'idée, c'est de dire qu'on a les hommes maintenant.
Alors, vous l'avez dit, le management, le groupe de 42, les efforts des clubs pour avoir des gros joueurs. Moi, je vais essayer de trouver un petit bémol, là, hein, c'est un petit peu le jeu de l'émission. Il y a quand même, malgré le fait qu'il y ait 42 joueurs, quand on réfléchit bien, il y a quand même toujours un petit peu les mêmes qui repartent. Et donc, ouais. Du coup, un petit peu les mêmes qui restent. Et vous évoquiez, donc, le cas Dupont, le cas Ntamack. On voit qu'il y a même une hiérarchie. Alors, c'est logique qu'il y ait une hiérarchie quand on veut fabriquer un groupe qui va se retrouver sur le terrain. Mais ça veut dire qu'il peut-être, c'est juste une hypothèse, hein, y avoir certains joueurs qui ont peut-être un petit peu marre de faire ces allers-retours, de venir, de pas jouer, d'être tout prêt, mais de pas y être. Je pense que c'est pas forcément simple, in fine, de gérer un groupe aussi important, parce que malgré tout, encore une fois, et c'est normal, il y a quand même les 15 ou 23 titulaires qui sont quand même connus, Renaud le disait, on sait quand même à peu près qui va être où, et donc je ne sais pas comment ça peut se gérer in fine, d'avoir des Barassi qui vont faire les allers-retours, d'avoir des Lebel qui vont faire les allers-retours, et donc voilà, c'est juste pour essayer de chercher une petite pique, parce que pour l'instant tout tourne bien, et ouais. C'est le résultat de ce tournoi qui nous dira si c'était encore une fois une bonne chose.
Alors justement, l'autre Christian, pour corroborer ces dires, ou pour justement entrer un peu dans le débat, il y a aussi des retours. Et dans ces cas-là, effectivement, ça va dans le sens de Christian, puisqu'il y a des gens qui ont été blessés, je pense à Willem C, je pense à François Cross, qui ont très peu de temps de jeu dans leur club, ils sont quand même quasiment assurés. Est-ce que ça ne peut pas mettre un peu de, j'allais dire, pas de chocolat, mais peut-être un peu de tension dans le groupe ou une rivalité qui pourrait peut-être un peu nuire au rendement? Parce que ces gars, tout simplement, ne vont-ils pas manquer de gaz, de préparation?
Alors, il y a quelques doutes sur la condition physique, notamment de Willem C, puisque c'est un gros gabarit. On sait qu'un gros gabarit a besoin de.
Enfin, moi, je ne dirais pas en face à qu'il est gros parce que.
Ouais, un gros gabarit. Gros gabarit.
Ah, pardon.
Et ces joueurs-là ont besoin de jouer, de monter en puissance, contrairement à un gars de 90 kilos, c'est plus compliqué. Mais on peut aussi remarquer que Woki, malheureusement, est forfait pour le tournoi. Donc, en seconde ligne, on n'est pas si riche que ça. On se trouve donc avec des choix qui sont limités sur le poste de seconde ligne, à mon humble avis. Là, ça devrait être Thibaut Flamand, visiblement, avec Willem C, d'après ce qu'annonce la presse. Mais ce n'est pas forcément la meilleure seconde ligne qu'on puisse aligner. Après, bon, il est normal aussi que Galtier fasse un groupe resserré. Il ne peut pas se permettre de faire un groupe élargi sur chaque match avec un turnover. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare une Coupe du Monde. Même si ça frustre certains joueurs qui sont tout prêts, c'est comme ça, ça marche. Donc, on ne peut pas non plus aller contre ce que fait Galtier. Pour moi, il adopte la bonne tactique. Il concerne tous les joueurs. Même si on les renvoie dans leur club en cours de semaine, c'est pas toujours facile à gérer, mais c'est la loi du très haut niveau.
Ouais, alors justement, tiens, on a vu qu'il y avait, comme l'a dit Christian, des nouveaux venus, mais qui faisaient pas mal l'aller-retour, hein, c'est-à-dire ils viennent, ils participent aux travaux de groupe, j'allais dire, et puis après ils sont pas invités à la fête finale. Est-ce que selon vous, malgré tout, il y a des joueurs qui auraient mérité de faire partie de ce groupe élargi et qui n'y sont pas? Est-ce qu'il y a quelques joueurs qui vous viennent à l'esprit, Renaud, rapidement, un ou deux joueurs, ou pour toi, il n'y a pas d'erreur de casting ou il n'y a pas d'oubli dans le casting Galtier?
Moi, c'est Aldeguerri. Désolé Christian.
Alors, non mais t'as raison, t'as entièrement raison.
Alors je pense que il fait l'unanimité. Son entraîneur, après c'est son entraîneur de club, Hugo Molin, est dithyrambique à son sujet. Alors vu comment ils se font dépouiller, peut-être qu'il aurait, il aurait fait un peu profil bas. Mais franchement, à droite, voilà, Aldeguerri, pour l'instant, moi, j'ai la, pour suivre le tome 14, il met tout le monde d'accord à ce poste-là en ce moment. Bamba revient bien, il a fait un bon match, donc il mériterait peut-être de comment ça s'appelle, de repostuler. Mais voilà, pour moi, Dorian Aldeguerri, ouais, c'est le grand oublié.
Il nous reste 5 minutes, les gars, donc on va aller un petit peu plus vite. Est-ce qu'il y a encore des oubliés, selon vous, Christian ou Fred, qui mériteraient d'être... Vas-y, Fred, Christian.
Je pensais à Oumpatin, le pilier droit castré, qui me paraît d'un niveau équivalent à Mohamed Awas. Hein. Je ne vois pas sur quels critères Awas passe devant Oumpatin. Bon, c'est perso hein, que je dis ça. Mm-hmm. Et peut-être l'arrière, mais là, le poste est tellement riche que c'est un peu dommage que Dulin soit un peu oublié aussi.
Fred, des oubliés pour toi?
Ouais, ben, c'est, voilà, moi, je voulais dire Dulin et Bamba, mais bon, les collègues ont parlé de cette situation-là. Je ne vais pas en ajouter davantage, mais c'est vrai que Bamba, bon, il est jeune, il pourra revenir. Il revient de blessure aussi, donc il faut aussi qu'il se remette un peu dans le bain.
Christian, un oublié ou pour toi, ou on a fait le tour des oubliés?
Non, je pense qu'on a tout dit. C'est vrai que c'est sur la première ligne qu'on a quelques, surtout sur le poste de droitier, qu'il y a des questions. Bon, Renaud l'a dit, moi je suis tout à fait d'accord. Aldeguerri a fait d'énormes progrès en termes de mobilité, ce qui était un petit peu son point faible. Il défend bien et il a toujours cette force en mêlée qui fait sa caractéristique. Donc bon, voilà, mais après bon, on verra encore une fois à l'usage. Et rien ne dit qu'il ne soit pas appelé en cours de route, parce que Galtier sait où sont les joueurs, donc s'il en a besoin, il n'a que pris que 10 Toulousains, il peut en prendre un 11e.
Ouais, il a le 0-6, comme on dit. Alors justement, tiens, pour terminer là-dessus, messieurs, on va se poser la question mais des ambitions que doit nourrir ce 15 de France, Jérôme, avant le tournoi. Deux questions, messieurs, à soumettre à votre sagacité pour les 3 dernières minutes. Question forcément réductrice de ma part. Hein. Est-ce que la France a le droit de perdre ce tournoi 2023? Et qu'est-ce qui ferait, selon vous, un tournoi réussi? À l'inverse, qu'est-ce qui ferait que le tournoi finisse par être raté pour nos 3 dernières minutes? Monsieur Protin, au boulot, est-ce que la France a le droit de perdre le tournoi? Tu as 30 secondes.
Non. Bon, si elle perd, ce ne sera pas non plus un drame. Mais moi, je pense qu'elle doit continuer sur sa lancée. Faut continuer cette dynamique de victoire, faut engranger de la confiance, c'est important. Bon, il y a un Irlande-France qui s'annonce chaud bouillant, qui pourrait être une finale de la Coupe du Monde de 2023. Il faut préparer les choses sérieusement, faut montrer que la France elle existe, faut montrer qu'on est fort et faut pas lâcher le morceau pour autant.
Christian, Mosna, le vénérable, on a le droit de perdre et pour toi, ça serait quoi un tournoi raté justement? Si on le ratait, ça serait lié à quoi?
Ben, déjà, de base, ce tournoi, il y a quand même 3 matchs à l'extérieur, contrairement à l'an dernier. Donc, déplacement en Irlande et à Twickenham, qui ne sont pas piqués des verts. Et donc, une victoire sur le tournoi, sans parler de grand chelem, parce que je ne suis pas sûr que ce soit réalisable. Mais bon, on va espérer, bien sûr, mais bon, une victoire sur le tournoi, ça serait réussi.
Qu'est-ce qui serait une réussite ou qu'est-ce qui serait un échec, selon toi?
Un échec, c'est que la France se renie dans son jeu, voilà, qu'elle sorte du cadre. Alors après, on aime ou on n'aime pas le cadre fixé par le coach, mais qu'elle oublie ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait, c'est... C'est ces 2 dernières années depuis que Galtier a pris les rênes du 15 de France et elle a le droit de perdre le tournoi et comme ça elle sera plus la bête à chasser et elle pourra travailler tranquillement à l'ombre de l'arrivée de la Coupe du Monde. Voilà.
Christian, oui, ambition à nourrir ce tournoi, c'est ça? C'est préparer au mieux l'échéance de septembre 2023?
Oui, et accepter de perdre contre l'Irlande, c'est pas mal parce que c'est pas un objectif, mais c'est une grosse équipe, ça sera sûrement la grosse équipe de la Coupe du Monde. Un tournoi raté, c'est perdre contre l'Angleterre, contre le Pays de Galles, qui me paraissent quand même loin, là où ça serait pas bien. Et puis comme l'a dit Renaud, encore une fois, c'est la question du jeu, j'entends parler de dépossession, repossession, il y a une tournée d'automne, où on n'a pas été si fringant que ça, in fine. Ouais. Donc je pense que maîtriser sur ce tournoi, assurer son rugby, c'est probablement l'enjeu au-delà de la victoire du tournoi, qui pour ma part ne me semble pas si important que ça, parce que là c'est vraiment la Coupe du Monde maintenant qui est la ligne droite.
Attention peut-être, messieurs, il reste 30 secondes, hein, au premier match en Italie, hein, de ne pas y aller non plus les mains en haut du guidon. Bon, j'ai des mous dubitatifs, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? 30 secondes, Christian Mosna. Pas de risque en Italie?
Ouais, il y a le risque. Hein, je crois,
pense à tes ancêtres, Christian.
Éventuellement, hein, oui. Bon. Non, je suis un fervent de la squadra, il n'y a pas de souci. Mais je pense quand même que même s'ils ont fait un bon tournoi l'an dernier, perdre là-bas, ça serait quand même une très grosse contre-performance. Voilà.
Bon, mais écoute, sur ces mots de contre-performance, on va se quitter, on va souhaiter une fois de plus un très très bon appétit à nos auditeurs, à nos auditrices. On vous dit surtout dimanche après-midi 16h, on vous veut tous devant France Télévisions pour l'entrée en lice des Bleus dans une année qui va être effectivement chargée en émotions. Et puis surtout, comme l'ont dit la plupart de nos intervenants aujourd'hui, arriver dans les meilleures conditions possibles au début de cette Coupe du Monde 2023. On rappelle qu'elle est organisée en France. Nous, on vous en reparlera bien évidemment dans plusieurs numéros, puis on débriefera assez rapidement les premiers résultats du tournoi. Merci à tous, merci les amis, très bon appétit et à très bientôt sur RCF pour de nouvelles aventures.